de tourner, s'il vous plaît, dans Jean au chapitre 5. Ceux qui se rappellent, la semaine passée, on avait aussi commencé notre message avec le cinquième chapitre de l'Évangile de Jean. Pourquoi? Parce que, si vous regardez bien ce chapitre, Jésus a pas mal à dire de choses sur la vie. Il est la vie, le Père donne la vie, toutes les choses comme ça. On va juste lire les versets 19 à 21. Je vais vous juste donner une couple de remarques d'introduction, puis on va tout de suite plonger dans le vif du sujet. Donc, vous êtes avec moi dans Jean 5. Lisons ensemble, s'il vous plaît, les versets 19 à 21. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Regardez verset 21. « Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, voici le Fils donne la vie à qui il veut. » On va prier. Seigneur, merci que tu es le prince de la vie, tu donnes la vie, tu es la source de toute vie. On vient t'adorer, toi, le Dieu vivant. Et oui, tu vis et tu règnes éternellement. On te loue pour ça, Seigneur. Tu n'es pas une idole faite de main d'homme. Tu n'es pas mort. Tu as vaincu. Tu as brisé les liens de la mort. Et tu as toujours été vivant, Seigneur. Merci pour ça. On vient, Seigneur, à être enseigné par toi, Saint-Esprit. Ces choses qu'on va voir enseignées à nos cœurs même, qu'on soit saisi de ces vérités glorieuses qu'on regarde le matin. Merci, Seigneur, pour chacun qui est venu ce matin. Bénis ton peuple réuni ensemble au nom de Jésus. Amen. Alors, Jésus ici qui il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, hein, il parle prophétiquement, évidemment, de, tu sais, quand il parle d'œuvres plus grandes, ben c'est ça, Jésus a fait bien des miracles, mais le plus grand miracle du Nouveau Testament, c'est la résurrection de Jésus d'entre les morts. Dans la vie de Jésus, il y a eu un climax vers, un climax vers la résurrection de Lazare, mais c'est encore plus grand lorsqu'on arrive à la résurrection de Jésus lui-même d'entre les morts. Et donc Jésus pointe à ça ici, puis ça nous dit, à la fin du verset 21, « Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Et ça nous montre que Jésus donne la vie à qui il veut parce qu'il est la source de la vie. Rappelez-vous, la semaine passée, on a vu ça, on relit le verset 26, ça dit « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi le Fils, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Donc, il donne la vie parce qu'il est la vie, parce qu'il a la vie en lui-même. C'est ça qui fait que Dieu, c'est dans son essence même d'être vivant. Dieu n'a jamais été mort. Dieu a toujours été vivant. Puis, Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est éternel. Et donc, Dieu est la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qu'il est. Donc, la semaine passée, on a vu des caractéristiques. Je trouvais ça un peu ordinaire comme titre de message, les caractéristiques du Dieu vivant. Je me suis grandement amélioré aujourd'hui et on va voir le caractère du Dieu vivant. Wow, quelle amélioration. Ouais, ça a dû un petit peu mieux, je trouve, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est là que on est rendu. On étudie ça ensemble ce matin. Pourquoi? Parce que le caractère du Dieu vivant va émaner tout ce qui va en découler, toutes les caractéristiques. Et donc, on va avoir trois traits de caractère ce matin qui sont bien distinctifs du Dieu vivant. OK? D'abord, ici, on a vu au verset 21, et je le relis encore là, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » La première chose qu'on voit, le premier trait de caractère du Dieu vivant, c'est qu'il prend l'initiative. Ici, ça dit, il donne la vie à qui il veut. Dieu est toujours le commencement et la fin, mais toujours le commencement. Et c'est toujours lui l'initiateur. Il est l'ultime. Vous savez, ça a toujours été le cas. Depuis le commencement de la création, notre Créateur et notre Sauveur, même en tant que Sauveur, c'est lui qui prend l'initiative. La Bible ne nous dit-elle pas qu'il nous a aimés le premier? Et c'est lui qui donne la vie. Et il ne donne pas juste la vie physique lorsqu'on vient au monde, mais ici, dans le contexte, il parle de vie éternelle. C'est lui qui donne la vie éternelle à qui il veut. Et juste ici pour qu'on se situe, comme j'ai dit, le contexte nous parle que c'est la vie éternelle. Et on va voir avec le deuxième point, c'est lui qui la donne et on la reçoit par la foi. Il y a une certaine part de mystère là-dedans, mais ce que je veux juste dire ici, c'est que Dieu donne la vie, et cette vie, lorsqu'on l'a, c'est surnaturel. C'est pas une vie, on dit, la vie éternelle, elle finit jamais. Oui, mais c'est une vie qui n'a pas nulle part ailleurs. C'est pas juste une vie qui est différente en quantité, qui finit jamais, en qualité. La vie que Dieu donne, c'est une vie que personne dans l'univers peut nous donner. Il y a juste Dieu qui donne la vraie vie. Avant qu'on ait Dieu, on est mort. On n'a pas la vraie vie. On a une vie physique, mais on n'a pas la vraie vie. Et c'est ça l'idée quand on parle de la foi qui sauve. C'est avoir reçu, ça c'est le côté humain, hein, la foi qui reçoit cette vie intarissable, inébranlable et inégalable, incomparable. Je veux dire, il n'y a pas de vie comme ça qu'on peut retrouver ailleurs. Et ça, Dieu en est l'initiateur, ça vient de lui, c'est lui, il en est le commencement, la source. Et je vais vous donner juste une couple d'exemples ici, bibliques, en rafale, juste pour vous dire comment Dieu est l'initiateur. Savez-vous que Dieu nous a créés, puis dans le jardin d'Éden, il a décidé du cadre de la vie, comment ça allait se passer. Il n'a pas consulté l'homme, il a dit, ça va être demain. Dans le jardin d'Éden, déjà dans le paradis terrestre, Dieu avait dit comment ça allait se passer. Le fameux homme qui a appelé pour créer la nation d'Israël, Abraham. C'est Dieu qui l'a appelé. Il a appelé un païen. Il a appelé quelqu'un de parmi là, des peuples qui adoraient des divinités. Là. Il l'a appelé pour qu'il devienne l'héritier de la promesse messianique. La promesse était avant Abraham, mais en fait, la promesse, aussitôt qu'il y a eu le péché dans le monde, Dieu a donné la promesse du Rédempteur. Mais il a choisi de sa propre initiative de faire d'Abraham et sa descendance ceux qui allaient hériter la promesse messianique, l'héritage de l'Éternel. OK? C'est l'initiative de Dieu. Il a décidé de mandater Moïse, non seulement pour sortir son peuple d'Égypte, mais aussi pour les sortir de l'esclavage avec sa grande, à main levée, avec sa grande délivrance qu'il a opérée avec les 10 plaies d'Égypte. Puis bon, il aurait été aussi celui qui les a fait rentrer en terre promise, mais vous savez, les choses ont changé un peu en cours de route. Dieu aussi a décidé de donner sa loi à la nation d'Israël naissante. OK? Il a décidé de la donner à cette nation. C'est lui qui a décidé ça. Il a choisi David. OK? Il dit, je t'ai choisi comme roi et héritier, d'un peu de la même manière. C'est la continuation de ce qui a été promis à Abraham. Je t'ai choisi comme roi et héritier d'Israël, et sur ton trône va s'asseoir celui qui est le roi d'Israël. Il a choisi des prophètes. Et là, on peut en nommer toute une liste. Élie, Élisée, Ésaïe, Jérémie, Amos, OK, il y en a une longue liste. Il les a choisis pour rappeler son peuple à lui. Il dit, vous allez invoquer mon peuple de revenir à moi. Il a choisi son propre fils qu'il a envoyé dans le monde afin de nous racheter de nos péchés. Et il a choisi des apôtres pour prêcher l'évangile et poursuivre le fondement que Jésus avait posé dans les évangiles pour l'édification de l'Église. C'est tout Dieu qui a choisi ça. C'est tout Dieu qui a décidé, comme on dit en anglais, c'est lui qui a callé les shots. OK? C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui dit, hey, Dieu, j'ai une idée. Non, c'est tout le plan de Dieu, c'est son initiative. Voyez-vous que tout au long du développement du grand plan rédempteur de Dieu, Dieu a toujours été celui qui prenait l'initiative. OK? Il utilisait qui il voulait et comment il le voulait. Il n'y a personne qui lui a dit qu'il peut faire. Puis ça, c'est parce qu'il est vivant. Si c'était juste un. Vous savez, les idoles, c'est ça la caractéristique d'une idole. Tu décides, tu sais, une idole, tu peux prendre des. Dire, ah oh, ben là, tu sais, vu qu'il n'est pas vivant, tu peux dire, ah, ben ça, on va faire ça de même, on peut tourner les coins ronds, parce qu'il ne va pas dire rien. Mais Dieu, puisqu'il est vivant, c'est lui qui prend l'initiative, puis personne ne peut rien dire à ce qu'il fait. Maintenant, peut-être que ça pourrait troubler certains. Ah, c'est pas arbitraire, ça, que Dieu, il ne consulte pas personne, puis c'est tout lui qui dit quoi faire, puis c'est tout lui qui choisit. c'est pas juste. On n'aurait jamais dit ça devant Dieu, c'est pas juste. Mais non, au contraire, au lieu d'être un peu troublé par ça, ça devrait nous rassurer qu'il n'y ait rien qui est laissé au pouvoir corrompu, mauvais, au cœur méchant de l'homme. C'est tout dans les mains du Dieu bienveillant, bon, souverain, qui contrôle toutes choses. Je suis content que ce soit de même, n'est-ce pas? C'est pas dans les mains imprévisibles des hommes. C'est dans celle omnipotente et inébranlable de notre Dieu. Puis, il y a un autre côté aussi rassurant au fait que Dieu est l'initiateur à ce trait de caractère-là, OK? C'est sa signature. OK, je vous explique. On n'est pas dans un plan où est-ce que l'homme est à l'origine. On n'est pas dans une secte ici, là. On n'est pas dans une religion. On est des adorateurs du Dieu vivant. On n'a pas quelqu'un qu'on dit Joseph Smith ou Charles Taze Russell ou tel pape ou tel sage qui est à notre origine. C'est Dieu, le Dieu vivant, qui est à l'origine de ce qu'on a le privilège de faire partie ici comme église locale et bien plus large, on sait, le corps de Christ partout sur la terre, les vrais enfants de Dieu partout sur terre. Ça, mes amis, moi, ça me rassure. D'ailleurs, il y a quelqu'un, une madame qui a appelé cette semaine. Êtes-vous, d'abord, la fameuse question, il y en a deux qui ont demandé ça. Est-ce que vous êtes des témoins de Jéhovah? Non, madame, on n'est pas des témoins de Jéhovah. Êtes-vous dans une secte? Non, madame. Puis on prêche Jésus-Christ. On prêche celui qui est le seul sauveur. C'est pas une secte, mes amis. C'est la seule vraie foi, la seule vraie religion, si on peut dire. Et mes amis, quel privilège de pouvoir connaître ce Dieu, de faire partie de ce plan, OK? Mais là, quelqu'un pourrait dire, « Ouais, mais là, si Dieu est tellement au contrôle, c'est-à-dire que nous, on n'a rien à faire, que de toute façon, ce qui doit arriver. » Ça, c'est une pensée fataliste. Et mon deuxième point va contrecarrer ça, va équilibrer. Non seulement Dieu est l'initiateur de tout, mais il a décidé de réagir à la foi ou à l'incrédulité. Genèse 6, venez avec moi, on va voir un des premiers exemples bibliques de ce dont je veux vous parler ici en deuxième point. Il a décidé de réagir à la foi et à l'incrédulité de l'homme. Il va s'en dire. Alors, on va lire les 9 premiers versets. Avec un autre homme de Dieu, il s'est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours ne seront que 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Et il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais regardez au verset 8. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Même dans ce passage-là, on a les deux. On voit que Dieu a donné sa grâce à Noé, mais on voit aussi Noé, sa partie, sa foi. OK? On comprend qu'il y a une certaine tension entre les deux. Là. OK? C'est une grande question théologique, la souveraineté de Dieu versus le libre arbitre de l'homme. Et on ne devrait pas être troublé avec ça. On devrait juste être humble et dire « je ne peux pas tout comprendre ». OK? Quelqu'un qui comprend se rend compte qu'il ne peut pas tout comprendre. C'est ça la leçon ici. Mais ce que je veux mettre de l'avant ce matin... C'est que le passage qu'on vient de lire, c'est clair que Dieu a décidé de punir l'incrédulité de ceux qui le rejetaient puis qui voulaient juste faire comme ils voulaient, et il a récompensé la foi de Noé, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce qu'on voit dans ce passage? On n'a pas tout lu l'histoire de Noé, mais on sait que ça commence comme ça. Et ça aussi, c'est un pattern. Comme Dieu est toujours l'initiateur, on voit aussi que Dieu, toujours, il a décidé que ça soit comme ça. Il récompense la foi, il rémunère la foi, pour prendre un terme plus proche de ce qu'on voit dans Hébreux 11. Il rémunère la foi, mais toujours aussi, il y a la conséquence, il punit l'incrédulité. Et c'était vrai ici avec Noé et tous les incrédules du monde prédiluvien. Et là aussi, on voit ce pattern-là étalé dans les Écritures. Je vous en donne encore quelques exemples en rafale. Il a récompensé la foi de Josué et Caleb. Il a puni l'incrédulité des 10 espions, puis tous ceux qui l'ont suivi. Voyez-vous? On voit encore là. Le pattern est là. Il a récompensé la foi du reste, le faible reste qui est revenu, qui est allé puis qui est revenu de Babylone, hein, parce que c'était un pas de la foi. Puis si vous lisez le livre d'Esdras, de Néhémie, vous allez voir ça. Mais il a puni l'incrédulité de ceux qui ont rejeté les prophètes qui leur disaient d'écouter puis de se laisser amener à Babylone de même puis de revenir, OK? Il a aussi récompensé la foi de ces simples apôtres, ces Galiléens, sans éducation, mais qui ont fait confiance à Dieu, qui ont reconnu leur Messie, et a puni l'incrédulité du leadership d'Israël et du peuple qui, en majorité, l'a suivi. Les apôtres ont été les héritiers du salut promis à Israël, et le leadership et la majorité du peuple ont été dispersés après que Jérusalem a été détruite. Voyez-vous le pattern? On pourrait continuer, là, mais vous avez l'idée. Remarquez que dans tous les exemples que je viens de vous donner, c'est la minorité qui croit et la majorité qui est incrédule. N'est-ce pas quelque chose qu'on voit à travers l'histoire chrétienne, qu'on voit à travers l'histoire du monde, qu'on voit en ce moment? Ne devrait-on pas en être surpris? Si ça a toujours été même, pourquoi qu'on serait différent? Le problème fondamental que ça révèle, parce que je continue de le dire, Dieu est souverain et Dieu permet ce qu'on est en train de vivre parce qu'il veut révéler des choses. Amen. Dieu est l'ultime révélateur. Ça va être le thème de l'année prochaine. Hein? Dieu révèle les cœurs, révèle la réalité des choses. Et ce que Dieu révèle maintenant, je crois, beaucoup, là je parle de son peuple, il révèle bien des choses par rapport au monde, là. Il révèle vraiment les plans de Satan puis tout ça, puis on est à la fin des temps, puis bon, on pourrait en parler de tout ça, mais je veux parler du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ce qui est en train de se révéler, c'est qu'on a traité Dieu comme un idole ou une religion vaine qui ne réagit pas comme s'il était mort, qui ne vaut pas notre confiance. Puis bien, ce que je vois en ce moment, le problème du peuple de Dieu, c'est qu'on ne traite pas Dieu comme s'il était vivant, comme s'il récompensait la foi. N'est-ce pas ce qu'on vient de lire au Venezuela, nos frères et sœurs, qui, au prix de conséquences, a dit hey, « Dieu est vivant, puis on va continuer à l'adorer parce qu'on l'adore en esprit et en vérité. » Puis qu'est-ce que Dieu a fait? Il a récompensé. Il les a protégés, il a sauvé des gens. Puis savez-vous quoi? Je suis pas mal sûr que le peuple de Dieu était édifié. Amen. N'est-ce pas? Dieu n'a pas changé, mes amis. C'est nous qui changeons. Dieu est toujours vivant. Et Dieu réagit parce qu'il est vivant. S'il était mort, on ne s'attendrait pas à aucune réaction parce que quelqu'un de mort... En tout cas, dernière fois, j'ai jamais vérifié, là. Mais si on a beau lui donner des coups de pied, je veux dire, on ne s'attend pas à une réaction, mais Dieu est vivant. Et donc, il réagit. Il réagit à quoi? À la foi ou à l'incrédulité? Et là, il y a un point important ici. Il y a une sécurité dans le fait de croire à Dieu, de se confier en lui. Puis je pense que le message de ce matin est à point et pour le temps présent. Mes amis, comprenons qu'on devrait trembler, pas aux circonstances puis à ce qui arrive, mais à désobéir à Dieu, puis parce que Dieu, il punit, il châtie, il va avoir des conséquences si on ne se confie pas en lui. C'est ça qui devrait nous faire peur le plus. Parce que on entend des menaces à gauche et à droite, mais ça, c'est la crainte de l'homme. Qu'est-ce qu'on devrait avoir le plus fort? Qu'est-ce qu'on devrait avoir qui... Le plus nous dit « Attention, danger », c'est de déplaire à Dieu, c'est de ne pas lui faire confiance. Mes amis, l'histoire humaine est la plus grande preuve avec toutes ses hauts et ses bas. Des personnes et des peuples entiers directement qui allaient soit vers le bas, soit vers le haut, en fonction du fait qu'ils faisaient confiance à Dieu. Et même des fois, ça veut quoi pour la. Parce qu'on sait, Dieu a la révélation générale, il a la grâce commune, puis il a la révélation spécifique de la parole, puis il a la grâce du salut. Mais c'est vrai pareil. Je veux dire, il y a des peuples qui, même, c'était pas tous des sauvés. S'il y avait une crainte de Dieu, même ça, Dieu a béni ça. Regardez l'histoire des peuples. C'est vrai. OK? Donc, ce qu'on parle, c'est un principe universel. Dieu est l'initiateur de toutes choses, mais aussi Dieu récompense la foi et punit l'incrédulité. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans Hébreux, au chapitre 10, verset 31, « C'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. » Mes amis, on doit craindre ça le plus. Puis regardez aussi ce que ça dit dans Galates 6, 7. « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » C'est une loi universelle. C'est vrai dans la nature. C'est-à-dire, si on sème des carottes, on ne s'attend pas que ce soit des patates qui poussent. Mais si on sème la foi, on ne s'attend pas que Dieu va nous laisser tomber puis va nous abandonner. Non. Mais attention, si on ne fait pas confiance à Dieu, il faut qu'on s'attende que ça ne va pas bien aller. Et c'est à ça qu'on doit trembler, mes amis. On doit apprendre à trembler aux bonnes choses. Un verset qui m'a tellement interpellé ces derniers temps, c'est lorsqu'Esdras, encore dans ce fameux passage, où est-ce qu'il prie, il s'humilie, vous savez, c'était le retour de la captivité. Il était peu, hein? Ça nous dit dans Sophonie que c'était un peuple humble et petit, mais qui trouvait son refuge dans le nom de l'Éternel. Et là, il prie Esdras parce que le péché était rentré dans le pays, les hommes avaient pris des femmes étrangères, puis bon. Il s'humilie comme ça devant son Dieu. Et la Bible nous dit que ceux qui tremblaient aux paroles de l'Éternel se sont rassemblés auprès de lui. Il y avait la crainte de l'Éternel. Vous savez, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a récompensé. Ils ont eu le fruit de leur foi. Il leur a été fait selon leur foi. Amène au troisième point ce matin. Non seulement, tu sais, Dieu, son caractère, un trait caractère, Dieu est l'initiateur. Dieu, il a décidé de récompenser la foi. Il réagit à la foi ou à l'incrédulité. Mais aussi une autre caractéristique du fait que Dieu est vivant, il est le sauveur de tous les hommes. Puis là, on va aller dans un passage qui, des fois, me rendait perplexe dans 1 Timothée au chapitre 4. Si vous vous rappelez, c'est quoi ce passage-là? Il est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Qu'est-ce que ça veut dire là? Je vais vous partager ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet-là dernièrement. Ça a été une grande bénédiction pour moi, puis je suis content de vous le partager ce matin. On va lire, pour un peu se mettre dans le contexte, là, 1 Timothée au chapitre 4. On va lire les versets 6 à 10, même si c'est sur le verset 10 que je veux plus me concentrer. Paul ici qui parle à son protégé, son enfant dans la foi, lui qui est le mentor de Timothée. Il lui dit, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes des vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. » Donc, Paul dit ici, c'est quoi ma motivation, là? Je travaille pour le Dieu vivant. Je ne suis pas quelqu'un qui s'attend que je fais quelque chose, puis ça va être comme dirait mon oncle, il tire ça dans le cosmos, puis il s'attend qu'il y ait une réaction peut-être. Mais non, Dieu est vivant. Je veux dire, si on marche par la foi, on s'attend qu'il va avoir une rémunération. C'est ça notre espérance. On a une espérance vivante. On sait que on n'est pas juste comme ça, laissé à nous-mêmes, mais que Dieu est vivant et qu'il agit toujours selon ses promesses, selon sa parole. Et ici, ça nous dit à la fin du verset, « Il est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Oui. » Je ne sais pas si vous, ça vous rend perplexe quand vous regardez. « Il est sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous l'expliquer. Récemment, là, le Seigneur m'a comme fait allumer là-dessus en lisant quelque chose qui n'avait aucun rapport avec ça. Ce n'est pas en avoir un commentaire, c'est en lisant le livre de Wim Brandt. Le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin des Juifs. Un très bon livre que je vous encourage à lire. Je ne vous dirai pas où je l'ai pris parce que là, sinon vous allez l'emprunter à Paul. Ah non, c'est fait! mais, OK, c'est littéral. Puis qu'est-ce que ça veut dire? OK, c'est la preuve, je vois dans ce verset-là, le fait que Dieu est actif et vivant dans ce monde. Et à travers toute l'histoire, ça a été le cas. Donc, quand d'abord on prend la première expression, il est sauveur de tous les hommes, c'est-à-dire tout le monde est sauvé, ça l'enseigne l'universalisme, ou non? Mais, écoutez bien, l'œuvre de Christ est tellement grande, ça s'étend à toute l'humanité, OK? Dans le sens où sa vie, sa rédemption, sa parole, sa sagesse affectent l'ensemble de l'humanité, même le monde croyant qu'il rejette. N'est-ce pas vrai que Jésus a dit que son soleil brille sur les méchants comme sur les bons? Et donc, le monde bénéficie de l'œuvre de Dieu, de la grâce de Dieu, et même spécifiquement de son œuvre rédemptrice. Et là, je vais vous donner des exemples qui viennent du livre « Quatre conquêtes de Jésus-Christ ». On sait que Jésus a conquis la mort, n'est-ce pas? Il a vaincu la mort. Aucun homme ne peut faire ça. Et ça, c'est l'espérance vivante qui est partagée à ce monde sans espoir. Quelle bénédiction, n'est-ce pas aussi, avec le traité? Le monde bénéficie de ça, là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le recevoir, mais savez-vous quoi? Ça bénit les gens de savoir que dans ce monde sans espoir, il y a de l'espoir, que rien ne peut tarir. OK? Donc, sa victoire, sa conquête sur le monde, ça l'amène une bénédiction à tout le monde. Je vous lis à ce sujet-là, Actes au chapitre 2. Regardez, Dieu l'a ressuscité, verset 24, « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur, ça c'est le psaume 16, devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de la joie de ta présence. » Et là, Pierre, de dire, là, il citait le psaume 16, il continue, « Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de le faire asseoir dans un de ses descendants sur le trône, c'est de la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant, qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis et qui a été répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Mes amis, savez-vous ça? C'est une méchante bénédiction pour le monde. Pour nous, premièrement, qui le recevons, mais le monde en est béni parce que c'est une puissance qui retient le mal dans ce monde. Et c'est pour ça que quand on voit en ce moment les événements, savez-vous que si l'Église de Jésus-Christ ne fait pas confiance à Dieu, c'est un détriment pour le monde. On fait payer les gens, « Ah, il faut sauver le monde, il faut faire... » Non, c'est l'inverse. Si on ne fait pas confiance à Dieu, le monde en souffre. Parce que ça laisse le mal avancer. Ça a toujours été le même aussi dans l'histoire. Mes amis, il faut qu'on comprenne à quel Dieu on a affaire, là. Dieu est vivant, puis si on lui fait confiance, il fait des choses, non seulement pour nous, mais qui vont être une bénédiction pour le monde. Puis regardez dans l'histoire comment il y a eu des réveils, puis qu'il y a eu des gens qui sont venus à Christ en grande quantité quand le peuple de Dieu acceptait de souffrir, de mourir, d'être maltraité, autrement dit, qui faisait confiance à Dieu. C'est là, c'est ça que Dieu a utilisé, au point que Justin Martyr a dit que le sang de l'Église et le sang des saints, le sang des martyrs est la semence de l'Église. Donc, ça, c'est la première conquête de Christ. Il a conquis aussi le monde, hein? N'est-ce pas que Jésus a dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Il a vaincu le monde. Tu sais, même quand Jésus est venu dans le monde, là, même le monde physique, là, la tempête obéissait à lui, le monde spirituel, les démons étaient chassés. Même, on apprend dans 1 Corinthiens qu'il a même vaincu la sagesse de ce monde. Que la sagesse de ce monde, en fait, c'est de la folie pour Dieu. Puis, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de connaissance devant l'Éternel. Il y a juste, on doit garder silence devant l'Éternel. J'aime le passage, ça dit, « Aussi n'est-il pas écrit, je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? » Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, ça sert à rien, tu sais, les philosophes, Nietzsche, Camus, ou même les vieux comme Socrate, puis Platon, puis tout ça, ils n'ont pas connu Dieu avec cette sagesse-là. Il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et ça aussi, le monde en bénéficie. On est peut-être méprisé par le monde. Ils vont peut-être faire pas grand cas de nous dire en disant qu'ils sont fous. Mais savez-vous quoi? Il y a une bénédiction pour le monde au fait qu'on prêche Christ crucifié. Folie pour pour le monde, mais puissance de Dieu pour nous autres. Donc, Dieu a vécu le monde dans tous ses aspects physiques, spirituels et toute sa sagesse du monde. J'ai aimé une fois, je n'avais pas pensé à ça, mais M. Wurmbrand, il dit, il a conquis le judaïsme. Qui aurait voulu garder Jésus dans l'obscurité comme un parfait inconnu, l'un des nombreux faux messies qu'il y a eu dans l'histoire d'Israël. Puis il y en a eu beaucoup, avant puis après. Okay? Mais il a vaincu ça. Pourquoi? Parce que c'est lui le vrai, le vivant, puis il est adoré et connu par des milliards de personnes. Regardez à travers l'histoire, comment il y a de gens qui ont adoré Jésus, qui l'ont connu, lui, le Messie d'Israël, il a vaincu l'obscurantisme, le couvert que le judaïsme voulait mettre sur lui, ils ne sont pas capables de le retenir. Il s'est fait connaître parmi toutes les nations, comme ça dit, dans leur parole. Et même, Jésus a conquis Rome. Il a conquis Rome, ce grand persécuteur des chrétiens. Et l'un de leurs leaders, Julien l'Apostat. Et j'espère que c'est pas un bon nom à donner à quelqu'un, mais c'était son surnom. Là. Julien l'Apostat a dit, tu as conquis aux Galiléens, avec un G majuscule, là, Jésus. C'est le plus fort qui conquiert. Et si Jésus a conquéri des rois, il est le roi des rois. C'est un païen qui a dit ça. Là. Puis c'est vrai, regardez l'Empire romain. Jésus a conquis l'Empire romain. Pas avec l'épée. Pas avec l'épée humaine, avec l'épée de la parole. Donc, voyez-vous comment les conquêtes de Jésus-Christ, c'est le salut, c'est la délivrance du monde. Donc, Jésus est le sauveur de tous les hommes. Son salut affecte tous les hommes. Mais, tu sais, dans le fond, il sauve le monde de sa folie puis de sa barbarie. Regardez l'Empire romain, c'était barbare, c'était vraiment... Puis barbare, ça vient de les gens qui ne comprenaient pas les autres, les dialectes. Ils disaient, c'est des barbares, parce que tout ce qu'on entend qu'ils disent, c'est barbare. Mais nous, on dit de la barbarie, barbare. C'est quelqu'un qui a comme pas trop de morale, puis qui s'en va avec sa lance, puis il est prêt à tuer quiconque n'est pas comme lui ou peu importe, comprenez-vous? Jésus a délivré le monde de tout ça. Le christianisme est la base de notre monde civilisé, qui est en ordre, pas mal plus que ce que c'était avant. Donc, c'est pour ça que, en tant qu'Église, on défend la foi biblique. Pas comme un évangile social, mais on croit que Jésus, son évangile est tellement puissant qu'il a la puissance de transformer les cœurs humains au point que ça transforme la société. Parce que c'est ça qui est arrivé au commencement de l'Église, puis c'est encore vrai de nos jours. C'est une bénédiction, c'est bénéfique, c'est salutaire pour tout le monde. C'est pour ça que ça dit qu'on doit prier. Tu sais, on a une puissance spirituelle, ça dit, dans 1 Timothée au chapitre 2, ça dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et à cause de ça, il dit, je vous exhorte donc à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, ça c'est nos dirigeants, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute honnêteté. Cela est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur. Et ça fait partie de l'œuvre rédemptrice, de la bénédiction de l'œuvre de Christ sur le monde. Savez-vous quoi? Quand ça va être enlevé, parce qu'on sait que ce qui retient en ce moment tout le mal, l'homme impie, puis tous les événements de la tribulation d'arriver, c'est celui qui le retient, le Saint-Esprit qui est dans l'Église, puis les chrétiens qui prient. Mes amis, est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est une puissance incroyable pour que Dieu nous dise dans sa parole que lorsqu'on prie, ça a une puissance de restriction, puis tout ça. Mes amis, on est tous bien d'y croire. Quand on prend des temps de prière demain, ça change les choses. Donc, ça, c'est pour en général, mais ça dit, ensuite, ça dit surtout des croyants. Ben oui, évidemment. Lorsqu'on place notre foi personnellement en Christ, oh! Là, la bénédiction, c'est plus juste ce que le monde bénéficie de l'œuvre de Christ. Là, c'est nous dans notre vie, puis là, c'est personnel, c'est beaucoup plus puissant. Donc, il est le sauveur de tous les hommes, on vient de voir ça. De tous les croyants, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, lorsque quelqu'un répond à l'œuvre de conviction du Saint-Esprit, la Bible nous dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Okay? Lorsqu'on répond à ça par la foi en s'humiliant, en recevant le salut de Jésus-Christ, okay? On est sauvé, on devient un enfant de Dieu. Et je veux juste vous donner en rafale encore là une coupe de bénédictions qui viennent avec. La Bible nous dit qu'on devient fils du Dieu vivant. Ça dit ça dans Osée, ça dit ça dans Romains 9, 26. Aussi, je vais vous lire au moins Romains 9, 26. Ça dit « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'y offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? » Excusez, c'est pas... J'ai dit romain, hein? C'est hébreu. OK? On devient fils du Dieu vivant. Notre conscience est purifiée par le Dieu vivant. Ça, c'est Romains 9, 14. Le Saint-Esprit nous scelle, l'Esprit du Dieu vivant nous scelle. Un sceau, là, c'est un sceau d'authentification. Le Saint-Esprit nous est donné pour dire, ça, c'est vraiment mon enfant. Voici, je le reconnais comme racheté, lavé par le sang de Christ. OK? C'est un autre privilège du salut qu'on a en Jésus-Christ. Le Père nous appelle aussi serviteurs du Dieu vivant. Écoutez 1 Thessaloniciens 1:9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Une autre bénédiction, on est délivré de nous-mêmes puis de nos passions par le Dieu vivant. Écoutez 1 Timothée chapitre 6, verset 17. « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de le mettre dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. » Et finalement, nous sommes le temple du Dieu vivant. Et vous connaissez 2 Corinthiens. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça fait, c'est juste certains des privilèges du fait d'être un enfant de Dieu. Donc, Dieu est le sauveur de tous les hommes, spécialement des croyants. Voyez-vous, toute la délivrance, toute la bénédiction qu'on a d'être un enfant de Dieu. Et c'est juste quelques façons par lesquels on jouit du salut de ce Dieu vivant, nous, les croyants. Et si vous n'êtes pas encore dans cette catégorie ce matin, un enfant de Dieu sauvé par sa grâce, contentez-vous pas de la grâce commune, contentez-vous pas de ce qu'on peut voir de la société qui est une bénédiction de Dieu. Vous pouvez avoir directement la bénédiction du Dieu vivant par son salut. Dieu est personnel. Dieu nous cherche pour nous nous transformer nous-mêmes notre cœur. Et comment c'est important dans ces temps aussi qu'on se rappelle que c'est pour ça qu'on est sur terre, parce que Dieu veut qu'on partage ce salut-là. Si on a ce privilège, Dieu veut aussi qu'on le partage avec d'autres. Et je suis content, ça sort dans les temps de prière, ça sort dans ces temps-ci, hein, beaucoup de solitude et tout ça, puis là, les temps des fêtes ne seront pas comme on penserait. Mais savez-vous quoi? Dieu sauve encore, puis Dieu, son évangile est encore le même, puis il veut qu'on le partage, qu'on rende compte de l'espérance qui est en nous dans ces temps difficiles. Voyez-vous comment, quand on regarde ce qu'on a vu ce matin sur le caractère du Dieu vivant, comment c'est un merveilleux privilège de connaître ce Dieu, puis de pouvoir l'adorer en esprit, puis en vérité. le servir. Le servir, le connaître, le Dieu vrai, puissant et vivant. Puis on doit se tenir en garde. La Bible nous dit, écoutez bien, prenez garde, frère, parle ici à des enfants de Dieu, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mes amis, c'est pas le temps en ce moment de se détourner du Dieu vivant. Tu sais, c'est comme si on était d'une course, on a fait 42 km, un marathon, puis là, il reste 500 mètres, puis qu'on va aller prendre un break, puis on va aller... On est quasiment rendu, là. Je veux dire, on est à la fin de la fin, là. En fait, hier, quelqu'un disait quelque chose que j'avais dit cette semaine, que le Seigneur m'avait rappelé. Tu sais, on dit, ah, la fin est proche. Non, je pense que là, c'est la fin. On est en train de vivre la fin. C'est un frère dans le Seigneur hier qui disait ça. Puis ouais, t'as raison, frère. Je pense vraiment que c'est là la fin. On est en train de la vivre. Il y a quelque chose d'excitant là-dedans. C'est comme, waouh! Tu sais, si quelqu'un ne croit pas les prophéties de la Bible, tu vois, je veux dire, en tant qu'enfant, il faut être aveugle. Je veux dire, tout est en train de se passer. C'est incroyable. À la lettre, puis tout ce qui... Tu sais, on est vraiment dans la fin de la fin. Je veux dire, les pages, là, il n'en reste plus ben, là, avant que ça soit le temps qu'on monte puis qu'on aille rejoindre notre Seigneur. Écoutez bien, je vais terminer avec cette pensée-là. On a écouté hier un excellent message sur la chercher la face de Dieu. Si vous allez, en tout cas, sur le site de l'église Falls Baptist Church, pasteur Wayne Van Gelderen, son frère, je pense son, oui, son petit frère, Jim Van Gelderen, a prêché l'année passée, leur conférence, c'était sur la présence manifeste de Dieu. Un excellent message qu'il a prêché là-dessus, Jim Van Gelderen, sur la présence manifeste de Dieu. Puis c'est ça l'idée de chercher la face de Dieu, c'est chercher sa présence manifeste. Savez-vous que c'est beaucoup dans la Bible, ça? Je vais vous donner juste deux exemples. Dans les psaumes, ça sort beaucoup. OK? Je vous en donne deux. Dans psaume 42, 2 et 3, ça dit « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. » Dieu, c'est toi que je veux, c'est ta présence. Soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et partirai-je devant la face de mon Dieu? Écoutez aussi psaume 84, 3. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. C'est quoi l'aspiration de ton cœur ce matin? Est-ce que ton âme soupire comme ça? Savez-vous quoi? Il y a quelque chose de précieux avec ce qu'on vit. On ne trouve plus grand réconfort dans ce monde. On dirait que, tu sais, les joies... Hey, on est béni quand on a la joie d'être ensemble comme enfants de Dieu. Ici, beaucoup, on a une famille, puis tout ça. Puis c'est des joies merveilleuses. Mais on se rend compte que les joies puis les bénédictions de ce monde, il y en a de moins en moins. Puis la bénédiction de tout ça, c'est que ça nous fait soupirer après Dieu. Puis c'est pas parce que Dieu est contre qu'on ait des bénédictions dans le monde puis tout ça, mais quand Dieu est en premier, le reste, là, ça découle. Je veux dire, même si on sera en prison comme Paul et Silas, on chante pareil. Parce qu'on a le Dieu vivant qui change jamais. Alors, pourquoi pas exprimer à Dieu cette aspiration maintenant? On va prendre un temps de prière. Je pense qu'il y a une grande délivrance de rattacher juste au fait comme ça. De soupirer après Dieu, puis de dire, Dieu, je te veux toi. Puis lorsque ce Dieu vivant nous rencontre là où on est, il y a une paix, il y a une joie, il y a un repos qui vient comme juste Dieu peut le donner. On va prier. Seigneur, on te remercie de ce qu'on a pu te considérer toi, le Dieu vivant, qui est l'initiateur de toutes choses, c'est le commencement en tout, qui a décidé de réagir à la foi et à l'incrédulité, et qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Merci Seigneur que tu l'as voulu ainsi. Et Seigneur, ce matin, on vient à toi comme étant languissant, comme soupirant après toi, Seigneur. Parce que c'est de toi qu'on a besoin et de rien d'autre. Dans ces temps difficiles qu'on n'a jamais vécu avant, si on t'a, on a tout ce dont on a besoin. Merci pour ça, c'est simple. C'est toi, par la foi, on prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous lever maintenant.